Bonsoir, bienvenidas y bienvenidos sur Semillas Latinas, cette traversée radiophonique mensuelle qui vous emmène en Amérique latine et dans les Caraïbes à la découverte de la richesse culturelle et des réalités contemporaines de la région.
Semillas Latinas, une émission de Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Ce soir, c'est Anaëlle Michel et Sylvie Argibet à la présentation et on va parler de politique sécuritaire, de prison, de système judiciaire. On va s'intéresser tout particulièrement au concept de populisme pénal, mais qu'entend-on par cette notion, Sylvie ?
Le populisme pénal est un concept élaboré par le magistrat et chercheur Denis Salas. Il défend la thèse d'une dérive répressive de nos sociétés et critique la tendance du système judiciaire à privilégier des sanctions plus sévères où l'emprisonnement devient la réponse quasi systématique. Dans cette logique, le punitivisme prend le dessus sur les principes de réhabilitation et de réinsertion. Ce phénomène ancien connaît de nos jours une ampleur inédite et fragilise la vision humaniste et réparatrice de la justice.
Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays latino-américains notamment, le populisme pénal et plus largement les discours sécuritaires deviennent d'importants outils de communication politique dans le but de séduire de nouveaux électeurs et électrices.
Oui, ces dernières années, les responsables politiques ont eu tendance à durcir leurs discours sécuritaires pour capter des voix. Le Salvador, présidé par Nayib Bukele, est devenu emblématique de cette dynamique. La prison constitue l'un des piliers de sa politique sécuritaire. Depuis qu'il est au pouvoir, l'incarcération massive et arbitraire des personnes est rendue possible par l'instauration d'un état d'urgence permanent, renouvelé plus de 20 fois, au mépris de l'état de droit bien évidemment. Aujourd'hui, au Salvador, 2% de la population se trouve derrière les barreaux. Un triste record mondial.
Et de nombreux dirigeants latino-américains, généralement issus de cercles d'extrême droite, semblent vouloir répliquer le modèle Bukele. Au Chili, le candidat d'extrême droite à la présidentielle, Johannes Kaiser, a affirmé être prêt à payer Bukele pour qu'il accueille des prisonniers étrangers. En Argentine, la ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, a récemment visité la méga-prison salvadorienne du CECOT, une prison à sécurité maximale située à Tecoluca. Et en Équateur, un projet de prison inspiré de ce modèle a été présenté par le président Daniel Noboa pour faire face à la crise sécuritaire que traverse son pays du fait de l'explosion du narcotrafic.
Mais en France également, l'obsession sécuritaire se renforce. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a annoncé il y a quelques mois l'ouverture d'une prison de haute sécurité en Guyane, en plein milieu de la jungle, d'ici à 2028. La blessure coloniale semble ne pas se refermer. Et pour cause, pendant plus d'un siècle, de 1852 à 1953 précisément, la Guyane française a accueilli plus de 70 000 détenus venus de tout l'Empire français.
Bien que l'espace politique latino-américain semble largement dominé par un paradigme sécuritaire, certains dirigeants s'opposent à cette orientation répressive et proposent d'autres approches de la sécurité. C'est notamment le cas du président colombien Gustavo Petro qui défend le concept de sécurité humaine dont l'objectif central est la protection de la vie. Cette politique vise à protéger les personnes comme l'environnement grâce à la mise en place de programmes sociaux, environnementaux, économiques et culturels. Dans cette perspective, la justice restaurative est privilégiée par rapport à la logique répressive dans l'espoir de construire une paix stable et durable.
Alors, vous vous dites peut-être, un épisode sur les prisons, un peu plombant en cette période de fête, n'est-ce pas ?
C'est vrai que c'est un sujet complexe, mais pas de panique. Chez Semillas Latinas, on essaye d'ouvrir les portes de la compréhension et de libérer l'esprit critique.
Et avant d'analyser pourquoi la prison constitue parfois la cellule de crise de la démocratie, on va débuter par une revue de presse afin de faire le point sur l'actualité latino-américaine de ces dernières semaines.
Et on a la chance de poursuivre cet épisode dédié au système carcéral et au populisme pénal avec une interview du sociologue Thierry Maire, venu parler au micro de Semillas, des politiques sécuritaires mises en place par le président salvadorien Nayib Bukele.
Ces réflexions seront poursuivies par une chronique sur le collectif citoyen pour la dépénalisation de l'avortement, qui milite pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse au Salvador.
Et puis on vous présentera une chronique reportage sur deux collectifs anticarcéraux mexicains, No Estamos Todes, qui accompagne des prisonniers politiques dans l'état du Chiapas, et Hermanas en la Sombra, qui promeut la défense des droits des femmes privées de liberté à travers l'écriture et l'art comme outil de transformation.
On est ensemble jusqu'à 21h sur le 93.9 FM. Et tout de suite, on vous propose un petit tour d'horizon de l'actualité avec la revue de presse de Semillas Latinas.
Et pour commencer, la crise entre Washington et Caracas s'est accentuée ces dernières semaines. Depuis septembre, au nom de la lutte contre le trafic de drogue, les États-Unis ont déployé des forces armées dans la mer des Caraïbes, notamment le plus grand porte-avions au monde, et ont multiplié les opérations contre les navires des présumés narcotrafiquants vénézuéliens. Les frappes états-uniennes auraient tué au moins 80 personnes. Juristes et défenseurs de droits humains dénoncent des exécutions extrajudiciaires. L'administration Trump a annoncé considérer l'espace aérien vénézuélien comme totalement fermé. Les attentions du président font débat. Donald Trump veut-il en finir avec le trafic de drogue ou veut-il renverser le régime de Nicolas Maduro ? Pour le président vénézuélien, la lutte contre le trafic de stupéfiants est un prétexte utilisé par Washington pour renverser son gouvernement et s'accaparer les réserves de pétrole de son pays. Donald Trump augmente la pression contre Maduro et le menace d'opérations terrestres. Par ailleurs, un sénateur républicain a déclaré que Washington aurait proposé à Maduro de quitter le pays. L'interventionnisme impérialiste des États-Unis dans la région latino-américaine est un fait historique qui semble connaître un regain d'actualité.
Et depuis le 25 novembre dernier, Jair Bolsonaro, ex-président brésilien, purge sa peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État à l'issue du scrutin présidentiel d'octobre 2022. L'ancien chef d'extrême droite avait été reconnu coupable en septembre d'avoir dirigé une organisation criminelle dans le but d'assurer son maintien au pouvoir après la victoire de son adversaire Lula da Silva. Jair Bolsonaro a épuisé tous les recours possibles contre sa condamnation, a annoncé c'est le tribunal suprême fédéral. Assigné à résidence depuis début août, Bolsonaro avait été placé en détention provisoire pour risque élevé de fuite, après avoir tenté de brûler son bracelet électronique avec un fer à souder. Il purge sa peine dans les locaux de la police de Brasilia. Ses déboires judiciaires laissent son camp sans candidat pour la présidentielle 2026, alors que Lula, le leader de la gauche, a annoncé qu'il briguerait un quatrième mandat.
Et enfin, au Chili, la candidate de l'Union de la Gauche, Janet Jara, est arrivée en tête au premier tour de l'élection présidentielle de mi-novembre. Elle affrontera son rival d'extrême droite, José Antonio Kast, lors du second tour prévu le 14 décembre. Au premier tour, la communiste a obtenu près de 27% des suffrages, mais malgré cette première place, elle souffre d'un manque de réserve électorale, la quasi-totalité des candidats éliminés au premier tour se situant à droite de l'échiquier politique. Son rival ultra-conservateur, Kast, avait été battu au second tour de la précédente élection présidentielle en 2021. Cette fois, il bénéficie d'un soutien populaire nettement plus large, porté par une campagne centrée sur l'insécurité liée au crime organisé et sur le rejet de l'immigration. Kast a promis des expulsions massives, une militarisation accrue des zones sensibles, un meilleur équipement des forces de l'ordre et une sécurisation renforcée des frontières, avec l'érection de murs. Janet Jara a elle aussi adopté un discours sécuritaire défendant un contrôle migratoire renforcé. Le Chili a en effet connu une forte hausse de l'immigration, notamment vénézuélienne, ces dernières années, et la majorité des Chiliens et des Chiliennes associent la montée de la criminalité à l'immigration irrégulière. Pour la première fois depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet en 1990, la droite radicale pourrait revenir au pouvoir au Chili.
Et c'est précisément dans les années 1990 qu'on vous embarque à travers ce premier interlude musical avec le titre « Gimme the Power » du groupe de rock mexicain Molotov, un tube contestataire sorti en 1997. «
mafia te está extorsionando.
Dinero.
Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente.
Ladrón.
No es tu culpa, dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz.
Uh-huh.
Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power. Dame, 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 dame todo el poder.
¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones, ¡no lo somos!
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene?
Vous êtes toujours sur le 93.9 FM et vous écoutez Semillas Latinas en direct depuis Radio Campus Paris. Et maintenant, retour sur la politique répressive au Salvador. À ton tour, Sylvie.
En 2019 est élu le président salvadorien Nayib Bukele. Sa campagne a été centrée sur l'insécurité et la violence organisée engendrée par les maras, ces gangs salvadoriens que Bukele a promis de neutraliser. À travers une politique de mano dura, autrement dit répressive, Nayib Bukele est parvenu à rétablir supposément la sécurité dans le pays. Le taux d'homicide est passé de 36 à 2,4 pour 100 000 habitants entre 2019 et 2023. Le modèle sécuritaire salvadorien séduit de nombreux dirigeants dans le monde et Bukele continue de jouir d'une immense popularité auprès de la population salvadorienne. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons au micro de Semillas Latinas Thierry Mer. Bonjour. Vous êtes sociologue affilié au centre Maurice Olvat et professeur invité permanent à l'école supérieure d'économie et de commerce de San Salvador. Et pour commencer, est-ce que peut-être vous pourriez nous expliquer quelles sont les origines de la violence qui a embrasé le pays pendant plusieurs années?
Oui, bah écoutez, merci d'abord de l'invitation. Je suis très content de m'exprimer sur les ondes de votre radio. Je pense que c'est important pour nous les chercheurs de le faire. Alors, ce serait long pour répondre à votre question. Je vais donc le faire de manière extrêmement brève et j'espère que nos auditeurs m'en excuseront par avance. La première cause, je crois, c'est d'abord de se souvenir que le Salvador, comme beaucoup de pays centra-américains, a connu une guerre civile. Guerre civile qui démarre plus ou moins dans les années fin des années 60, début 70, qui va connaître son sommet au moment des années 80, avant de déboucher sur les accords de paix en 1992 dans le cadre du Salvador. Je rappelle que ce n'est pas propre au Salvador, puisque le Nicaragua va connaître aussi des tumultes politiques. Le Guatemala a connu juste à côté une guerre civile parmi l'une des plus longues d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Non, bon, c'est quelque chose d'assez qui a des conséquences. Ce qui se passe dans un pays, évidemment, a des conséquences sur le voisin. Mais quand vous parlez d'une guerre civile qui prend sa fin, vous parlez aussi de démobilisation de combattants, et notamment de jeunes hommes qui n'ont connu, à un moment donné de leur vie, que le combat, soit du côté de l'armée ou des forces paramilitaires, soit du côté des guérillas. Donc ces jeunes hommes, quand il faut les réintégrer à la vie civile, c'est quand même assez compliqué. D'autant plus que souvent, ils n'ont pas fait beaucoup d'études, leur niveau scolaire est assez faible. Donc c'est un vrai défi. Et puis, vous avez la question des armes. Un conflit civil, par définition, ce sont des armes. Alors bien sûr, les accords de paix, en général, prévoient des remises d'armes. Mais enfin, il y a toujours des caches d'armes. Il y a ceux qui les gardent avec eux en disant « on ne sait jamais ». Il y a peut-être aussi une forme au début de prudence. Est-ce que les accords de paix vont tenir? Donc si la guerre reprend, il faut qu'on reste armé, etc., etc. Et puis, il y a un deuxième facteur qui est venu se rajouter au début des années 2000. C'est ce que j'appellerais le facteur États-Unis. Les États-Unis, dans les années 90, ont été confrontés aussi à une grande violence civile. Et notamment dans les grandes villes de l'Ouest, Californie, etc., etc. Et donc, la politique répressive des États-Unis a conduit à l'arrestation de très nombreux migrants, dont beaucoup étaient des Salvadoriens, mais pas seulement, bien sûr. Et ces migrants s'étaient regroupés, sur le modèle américain, dans des bandes, des gangs, comme on dit là-bas. Et les États-Unis ont trouvé plus simple d'exporter ces gens, de les déporter, et le mot quand même a une charge historique assez forte, je trouve, de les déporter au Salvador sans prévenir le gouvernement, sans se préoccuper de préparer le terrain là-bas, etc. Donc le Salvador a vu débarquer à partir du début des années 2000 régulièrement des centaines de jeunes hommes, dont certains parlaient mal l'espagnol, parce qu'ils étaient arrivés aux États-Unis très jeunes, voire ils étaient nés aux États-Unis, mais de manière illégale, et leurs droits, ma foi, avaient été un peu piétinés. Et ces jeunes hommes arrivaient au Salvador, pays dont ils ne connaissaient pas grand-chose, dans lequel ils ne bénéficiaient pas forcément de relève familiale, se sont regroupés entre eux, et ont exercé leur solidarité, et ont importé leurs activités de délinquance. Autrement dit, une partie de la délinquance salvadorienne est de la délinquance exportée par les États-Unis.
Et donc vous parlez de cette violence qui a été en quelque sorte fabriquée par un pays extérieur au Salvador. C'est donc ces mareros qui sont membres de gangs. Quelle a été la stratégie sécuritaire justement mise en place par Nayib Bukele à son arrivée au pouvoir ?
Alors, avant peut-être de parler de la stratégie de Bukele, il faudrait se rappeler que quand même pendant 20 ans, si on prend de 2000 à 2019, hein, Bukele arrive au pouvoir, vous l'avez rappelé en 2019, donc en gros pendant 20 ans, les gouvernements salvadoriens ont toujours érigé la sécurité en sujet majeur. C'était pas le seul sujet, mais c'était quand même un gros sujet de préoccupation. Vous avez rappelé les chiffres d'homicides, les chiffres de violence. Le Salvador faisait figure des trois pays les plus violents dans un pays non en guerre sur l'ensemble de la planète. Hein. Bon, alors avec des hauts et quelques bas, avec parfois des réussites. Hein. Par exemple, vous avez évoqué Mano Dura, l'un des premiers à avoir fait une politique de Mano Dura, c'était sous le régime présidentiel de Saca, et son ministre de la justice, enfin de l'intérieur de l'époque, Gobernación, comme on dit, Figueroa, avait mis en place une politique de Mano Dura, qui a donné quelques résultats, mais peu. Alors, d'une manière générale, les gouvernements salvadoriens, d'ailleurs, ne savaient pas très bien comment s'y prendre. En gros, vous avez deux stratégies. Soit vous faites de la mano dura, donc ce que vous avez appelé une politique répressive, et répressive, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. On arrête tout le monde et on met en prison, puis on verra après. Bon. Stratégie aussi de renforcement judiciaire. Hein, par exemple, ils ont profité au Salvador de tout ce qui se passait autour du terrorisme pour convertir les mareros en terroristes. Ce qui est quand même surréaliste, parce que si la moindre bande délinquante devient terroriste, alors c'est un peu embêtant. C'est qui un terroriste dans ce cas-là ? Bon, on oublie le but politique tout de même du terrorisme, enfin en règle générale. Bon. Et l'autre versant évidemment de la politique, c'est de dire on fait une politique sociale. C'est-à-dire d'aller chercher les causes profondes, structurelles de la délinquance à la racine. Et bien sûr, la cause structurelle profonde, on la connaît, c'est la pauvreté. Si ces jeunes hommes revenus des États-Unis, brutalement arrachés à leur vie classique, s'étaient vus proposer un programme d'intégration, peut-être, je dis bien peut-être, hein, on n'en serait pas là. Si on avait mis en place de véritables programmes d'accompagnement des plus jeunes avec une politique de réinsertion, mais avec des si, vous refaites une politique. Il y a eu des essais, vraiment, et notamment lors du premier gouvernement qu'on pourrait qualifier de gauche, de Mauricio Funes, en 2009, là, il y a une vraie politique de tentative de réinsertion qui s'est mise en route. Mais en même temps, ces politiques de main tendue, pour faire l'opposition à la main dure, de main tendue, rencontraient un écho mitigé dans la population. Parce que la population, elle subissait quand même des actes d'une violence sans nom. Vous constatez des cadavres au pied de chez vous, dans vos rues. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants jouer ou se rendre chez leurs amis après 18 heures. Et de l'autre côté, vous constatez une main tendue. Vous avez du mal à la comprendre, cette main tendue.
Et donc, un des instruments phares, justement, pour mettre fin à cette criminalité qui a vraiment apeuré la population salvadorienne à l'arrivée à la présidence de Bukele en 2019, ça a été de vendre un produit presque de marketing, je dirais, de construction d'une méga-prison qu'on appelle le centre de confinement du terrorisme.
Oui, mais ça n'était pas en 2019. Quand vous regardez la campagne de 2018-19, donc la première élection de Bukele, on parle de la sécurité, bien sûr. C'est un thème récurrent à l'époque, mais tous les candidats en parlent. Bukele, pas plus que les autres. D'ailleurs, Bukele n'a pas de proposition particulière pendant sa campagne électorale sur ça. Le sujet principal de Bukele en 2019, c'est la corruption. Et il va jouer à fond sur cette politique. Mais si vous vous lancez dans une politique d'arrestation massive, il faut les mettre quelque part, vos délinquants. Or, le système pénitentiaire salvadorien qui repose, alors j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près 22 prisons sur l'ensemble du territoire. Le territoire salvadorien, c'est petit, hein, c'est l'un des plus petits territoires centra-américains. Le surnom du Salvador qu'ils se donnent à eux-mêmes, c'est le Pulgarcito, hein, le petit pousset. Donc c'est pas très grand. Les prisons sont dans un état absolument épouvantable. Elles sont surchargées. À côté de ça, nous, la surcharge de population carcérale en France paraîtrait presque aimable, vu de ce qu'on voit dans certaines prisons. Et puis, il y avait aussi l'idée derrière de dire les Mareros sont quand même des délinquants extrêmement particuliers. Et les mettre en prison ne sert pas à grand-chose, parce qu'en fait, ils continuent à diriger le crime depuis les prisons. On a dit, voilà, il faut construire une prison à part. Et ça a été, comme vous l'avez dit, le CECOT. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est le nom qu'on lui a donné. Centre de lutte contre le terrorisme. Donc les Mareros sont des terroristes. Et donc ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'un délinquant est un terroriste? On fait des Mareros des délinquants à part, qui justifient donc d'un régime à part. Mais donc on construit ce centre à une vitesse absolument prodigieuse, quand on sait au Salvador le temps qu'il faut pour négocier des choses et les construire. Et un grand centre complètement isolé, complètement moderne, et on en confie la gestion, non pas à l'administration pénitentiaire, dont on sait bien qu'elle est pas tout à fait protégée contre les influences de l'intérieur, on va dire ça comme ça, on en confie la gestion à l'armée. Et un escadron spécial de la police, une sorte de raid carcéral, etc. Mais c'est l'armée qui garde le centre, avec une équipe sur place de policiers surentraînés, surarmés, etc. Donc c'est aussi une question d'image, et à chaque fois qu'on arrête les Mareros ou Mareros supposés, on en fait tout un battage, on communique beaucoup sur Twitter, aujourd'hui X, Instagram, etc. On fait des vidéos, beaucoup de gens ont vu ces vidéos qui ont circulé autour du monde.
Oui, oui, avec des conditions d'incarcération extrêmement difficiles aussi, avec l'absence de lumière naturelle, l'absence de matelas aussi, des nombres de prisonniers dans une cellule assez réduite, avec une promesse qu'ils ne ressentiront plus de cette prison, puisque les peines sont d'une centaine d'années, voire plus. Les organisations de la société civile, des journalistes, des défenseurs de droits humains dénoncent les conditions de détention dans cette prison et dénoncent aussi de nombreux cas de torture, des cas de détention arbitraire, notamment beaucoup d'innocents qui sont incarcérés dans le CECOT. Qu'est-ce qui explique qu'il puisse y avoir aussi des cas d'innocents et de détention arbitraire dans cette prison?
En fait, ici, vous soulevez plusieurs sujets. Le ministre de Gobernación, de l'Intérieur, qui est chargé de piloter tout ça, et qui est d'ailleurs sans doute un des auteurs intellectuels du programme, hein, on parle beaucoup Bukele. C'est quand même pas Bukele qui a tout inventé. Hein. C'est ce monsieur, Villatoro, qui est à l'origine de la chose. C'est-à-dire que c'est tellement vrai que Villatoro est souvent consulté par d'autres gouvernements latino-américains. Peut-être on en reparlera après. Mais le CECOT offre des conditions assez drastiques. Hein. Je crois qu'il faut retenir deux choses. D'une part, vous avez ces conditions abominables qui ne respectent pas le minimum des droits, avec des détenus qui sont entassés sur des lits superposés sans matelas, collectifs, avec des cellules de 60 à 80. Vous imaginez? Des douches qui sont uniquement collectives, par roulement, quand on veut. Bien sûr, ils sont nourris, ce qui déjà, rappelons, dans un pays où il y a une sous-nutrition réelle, il y a des gens qui disent, ben eux au moins ils ont à manger, et ils n'ont pas besoin de travailler pour ça. Et donc, du côté de la population, ça résonne, ça aussi. une grande partie de la population est ravie de ce qu'on fait à ces délinquants. Et comment je pourrais leur dire « Ah, mais vous vous rendez compte, le droit, machin ?» Et ils vous répondent « Et nous, notre droit de vivre, alors ?» Qui nous a défendu quand on prenait les bus et qu'on se faisait canarder ? Qui a défendu nos enfants ? Est-ce que les organisations là, qui sont en train de s'exciter pour le droit des détenus, est-ce qu'elles étaient présentes pour nous défendre, nous ? Non ? Bon, alors, elles n'ont rien à dire. Je résume, hein, ça ne veut pas dire que c'est ce que je pense. Je signale tout de suite. Mais je veux dire, bon, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, cela dit, moi, j'essaie de faire la part des choses. Et ben, quand on veut défendre le droit, c'est quand même un peu bizarre de le faire sans le droit, voire contre le droit. Parce que l'un des problèmes, vous avez dit, ils sont condamnés. Ben, la plupart ne sont pas condamnés, ils n'ont même pas vu de juge.
Oui, parce qu'on rappelle aussi que Bukele a mis en place un régime d'exception en 2022 qui a été renouvelé sans cesse en permanence et qui permet donc d'incarcérer des personnes sans passer par des procès. L'état de droit est complètement bafoué.
Ah,
donc.
Complètement. Vous êtes arrêté, on ne vous dit pas pourquoi. Vous êtes incarcéré, on ne vous dit pas pourquoi. Vous n'avez pas le droit à un avocat. Les avocats n'arrivent pas à rentrer au CECOT ou de manière extrêmement rare. Je ne suis pas en train de défendre des banderos qui sont des délinquants dangereux. Mais en même temps, ce qui fait l'honneur d'une démocratie, c'est aussi d'appliquer le droit même à ceux qui ne le respectent pas. Et ensuite, vous soulevez une vraie question, c'est quid des arrestations massives dont certaines ne sont pas du tout justifiées. Et on a des preuves de gens qui d'ailleurs ont été libérés du CECOT, c'est assez rare, mais il y en a eu, une petite centaine et quelques, qui ont été libérés, qui d'ailleurs nous permettent d'avoir des témoignages de l'intérieur, et des erreurs. Alors bien sûr, on s'excuse souvent. Ouais, enfin, les gens, ils ressortent de là dans un état physique et psychologique absolument épouvantable. Une des personnes que j'ai enquêtées là-bas me disait, tu sais, il y a quelques années, quand il y avait les maderos, quelqu'un disparaissait la nuit ou dans la journée, tout le monde s'angoissait et disait, oh là là, la personne, elle a dû tomber sur la maderos, elle a fait des mauvaises rencontres, on va le retrouver ou la retrouver, mort ou morte. Et c'était malheureusement souvent le cas. Ben aujourd'hui, quand ça se produit, les gens frémissent tout autant, mais se disent « Oh là là, il a rencontré la police et il a disparu au CECOT ». Le CECOT est une espèce, pardonnez-moi l'expression, de trou noir judiciaire qui absorbe les gens et on ne les revoit plus. Alors, quand on entend le discours qui consiste à dire, notamment d'ailleurs porté par Viatolo, les gens qui sont au CECOT n'en ressortiront jamais, il y a à la fois une forme de promesse faite à la population. Vous êtes débarrassé à tout jamais des délinquants, ma foi, tant mieux. Mais en même temps, on est en droit de se poser la question, mais sur quelle base ? Et quand, aujourd'hui, la répression s'abat, non pas seulement sur les délinquants, mais sur toute personne qui critique le gouvernement, qui ose élever la parole ou poser des questions dérangeantes, vous commencez à vous dire, tiens, c'est bizarre, on passe de la délinquance pure et dure à la délinquance d'opinion. Et ça, c'est quand même un glissement, en termes politiques, qui qualifie un régime autoritaire.
Oui, avec une pratique de la délation aussi qui est de plus en plus généralisée. Par exemple, je ne sais pas, le commerçant d'à côté, votre concurrent, donc vous décidez de le dénoncer au service de police, au militaire, et cette personne va se retrouver incarcérée. J'ai eu aussi l'opportunité de me rendre au Salvador, et comme vous disiez, le discours qui était souvent avancé par la population, c'était oui, effectivement, il y a des innocents, oui, effectivement, il y a des marges d'erreur, mais en attendant, on vit actuellement mieux qu'avant sous ce régime d'exception. Je me demandais aussi, selon votre position de chercheur, comment vous envisagez cette politique à long terme, dans la mesure où elle est effectivement liée à cet état d'urgence qui est infiniment prolongé, ou est-ce que peut-être l'urgence est devenue la nouvelle norme ?
Je pense qu'à long terme, on a deux problèmes majeurs. Il y a un premier problème qui est un problème, on va dire, bêtement judiciaire et matériel. Vous avez un centre dont Bukele a dit, à l'époque, ça ne coûtera pas un centime aux Salvadoriens. Bah, évidemment, c'est faux. Il a fallu le construire et l'argent n'est pas tombé du ciel. Hein ? Bon, il a été pris sur le budget de l'État. Mais le fonctionnement quotidien du centre, le fonctionnement annuel du centre, ça coûte de l'argent. Et vous comprenez d'ailleurs pourquoi Bukele cherche à le remplir. D'où l'accord avec Trump pour accueillir éventuellement des détenus exportés Donc, on est en train d'inventer une nouvelle branche de l'activité, l'économie carcérale. On vend des places, c'est un peu, on vend du tourisme, ben, il y a un tourisme carcéral. Qui veut de ma prison? On a des places. Et vous aurez bientôt des annonces Airbnb, vend place de prison en cellule.
Bon. Oui, parce que l'administration Trump loue ces cotes.
Ouais, 4 millions.
À 4 millions d'euros, un accord qui a
en
été...
En attendant plus.
Et donc, il y a eu des 238 migrants, enfin, mais personnes vénézuéliennes qu'on a supposément accusées d'être affiliées au Tren de Aragua, mais qui avaient aussi beaucoup de personnes en situation irrégulière qui ont atterri dans ces côtes.
C'est là où on voit toute l'ambiguïté de la chose. Si on nous dit que c'est un centre de détention contre des terroristes, donc, on ne peut pas accueillir de simples migrants qui ont été en situation illégale. Un migrant en situation illégale, ce n'est pas un terroriste. Ou alors, il y a un problème de glissement sémantique qui pose quand même sérieusement problème. On sait bien qu'en Europe comme ailleurs, il y a des partis politiques qui font une espèce d'équation, on le voit par exemple encore en Bretagne ou ailleurs, migrant illégal égale terroriste, hein, ou délinquant égale terroriste. Donc, mais il faudrait quand même garder un peu la tête sur les épaules et pas tout mélanger. Donc, comment justifier que des migrants, qui plus est étrangers, non condamnés par la justice salvadorienne, atterrissent dans une prison salvadorienne? Avouez quand même que sur le plan du droit international, il y a de quoi se gratter la tête. Je ne sais pas s'il y a des juristes qui nous écouteront dans l'audience, mais il y a de quoi se poser des sérieuses questions. Bon, alors le cas exemplaire des Vénézuéliens se tord de rire si ce n'était pas sérieux. Mais d'ailleurs, ils ont été libérés avec une négociation entre Maduro et Bukele. Je ne sais pas trop si Trump était ravi d'ailleurs de la chose, mais bon, finalement, ils ont fini par les libérer. Donc du coup, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Moi, ce que je vois derrière, bah, c'est que le CECOT n'est pas plein. S'il y a de la place, c'est qu'il n'est pas plein.
Oui, 10 000 détenus pour 40 000 places disponibles.
Il y a 40 000 places, supposément, il n'est absolument pas plein. Alors maintenant, revenons 30 secondes en arrière. On lutte contre les Mareros, soit. Alors, on n'a jamais eu de recensement, évidemment, des Mareros. Hein. Personne ne peut vous dire qu'il y a eu tant de Mareros au Salvador à un moment donné. Mais les chiffres que certains spécialistes locaux ont essayé d'évaluer à partir des arrestations, à partir des actes, à partir d'un certain nombre de choses, les chiffres oscillaient entre, plus ou moins, 50, 60, jusqu'à 80 000 membres des gangs. Vous faites un CECOT de 40 000, donc c'est la moitié. Qu'est-ce que vous faites de l'autre moitié? Vous la laissez dans la nature? Vous avouez qu'en fait vous ne les arrêterez pas? Ou en fait vous les avez mis dans les autres prisons? Mystère et boule de gomme. Bon. Deuxièmement, encore plus drôle, 40 000 places, on est à peine à la moitié. Je ne suis pas sûr que ce soit un succès gigantesque. Alors après, évidemment, tout spécialiste de la sécurité vous dira, quand vous faites des opérations coup de poing sur la ville A, les délinquants quittent la ville A et vont dans la ville B. Donc on a fait des opérations coup de poing dans tout le Salvador, ils sont partis au Guatemala, ou ailleurs. Résultat, au Guatemala, vous avez depuis un an une augmentation assez phénoménale de la délinquance. Demandons-nous pourquoi. Bon, voilà. Donc là, il y a une vraie question, c'est pas rentable, ces cotes en fait n'est pas rentable, il est rentable politiquement, mais bon. Et puis au-delà, la question que vous posez, c'est quid de la suite? Mais je suis bien incapable de vous répondre, parce que peut-on maintenir des gens dans ce genre de situation juridique un peu éthérée, indéfiniment, sans jugement, sans avocat, sans procédure? Ils sont enfermés, ces animaux-là, je cite le ministre, ils sortiront jamais. Ça pose un problème, ça. Puis derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que politiquement, M. Bukele compte rester au pouvoir pendant 30 ans? Remarquez, vu la dernière modification constitutionnelle, vu sa réélection pas légale, enfin pas très légale, voire pas légale du tout, aujourd'hui, modification de la Constitution, donc tout le monde sait au Salvador, secret de Polichinelle, qui se représentera à la prochaine élection et qui sera, au train où vont les choses, probablement réélu. Donc c'est Bukele pendant 30 ans, c'est quoi pendant 30 ans?
Merci beaucoup Thierry Maire d'avoir été au micro de Semillas Latinas. Et pour rappel, vous êtes sociologue affilié au centre Maurice Alvoch et professeur invité permanent à l'École supérieure d'économie et de commerce de San Salvador.
Merci à vous.
Et tout de suite, une deuxième parenthèse musicale avec le morceau Un Movimiento Social de Sara Ebe, une voix anticapitaliste, féministe et antifasciste qui fait vibrer l'Argentine.
Te quería recordar que hoy es una luna muy importante, la última del zodíaco, y hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar. Hacete un fueguito en lo donde sea, una velita. Así que fíjate bien que quieres quemar.
El deseo, lo que pasa entre nos. social, desde abajo, desde abajo, para arriba, para arriba, que se arme ahora, cumbia, antifascista, desde abajo.
Avec nous, chers auditeurs, sur le 93.9 FM. Après une analyse approfondie de la politique carcérale menée au Salvador, tu vas maintenant te pencher, Anaëlle, sur une autre facette, plus silencieuse mais non moins alarmante, de la stratégie punitive du gouvernement Bukele.
Tout à fait, car au-delà de la lutte contre les gangs, c'est aussi le corps des femmes qui se retrouvent au cœur de la répression. Je vous propose donc dans cette chronique de faire le point sur la criminalisation de l'avortement au Salvador. La prison pour tous semble être devenue la devise du président Nayib Bukele. Nombreuses sont les personnes marginalisées et en situation de précarité qui sont arrêtées de manière arbitraire et enfermées dans des prisons salvadoriennes. Les victimes du régime d'exception sont nombreuses et les femmes ne sont pas épargnées. Le Salvador possède une législation anti-avortement parmi les plus répressives au monde, soutenue notamment par la puissante Église catholique. Le code pénal interdit strictement toute interruption de grossesse, même si la vie de la mère est en danger, et prévoit des peines allant jusqu'à 8 ans d'emprisonnement. Mais dans les faits, de nombreux juges requalifient la perte d'un fœtus en homicide aggravé, un chef d'accusation passible de peine pouvant atteindre 50 ans de prison. Et ce n'est pas tout, les femmes salvadoriennes risquent même la prison pour avoir subi une fausse couche. Celles-ci peuvent alors être accusées d'avoir provoqué cet accident, dont elles sont pourtant les premières victimes. Et elles sont alors condamnées à une peine allant de 30 à 50 ans de prison. D'ailleurs, l'hypocrisie s'ajoute à l'injustice et à la cruauté, dans la mesure où, dans les faits, les femmes salvadoriennes aisées peuvent aller avorter dans des cliniques privées extrêmement chères ou le faire à l'étranger. Tandis que les femmes les plus pauvres, notamment celles qui vivent en zone rurale, sont les premières victimes de la criminalisation de l'avortement. On comprend dès lors qu'au Salvador, la lutte pour la dépénalisation de l'avortement soit une question absolument centrale pour les militantes féministes. Le collectif citoyen pour la dépénalisation de l'avortement est un exemple en la matière. Ses membres mènent une lutte sans relâche pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. L'une des figures de cette organisation, Morena Herrera, est d'ailleurs surnommée l'âme salvadorienne de Simone Veil par des médias français tels que Libération. Les membres de ce collectif travaillent depuis des années pour faire sortir de prison des femmes incarcérées en raison d'urgences obstétricales. Ce collectif a à ce jour obtenu la libération de 64 femmes. Deux autres noms ont marqué la lutte pour le droit à l'avortement au Salvador, ceux de Manuela et de Beatriz, comme nous l'a affirmé Sara Garcia, coordinatrice du collectif citoyen pour la dépénalisation de l'avortement.
Des cas ont été portés devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, comme celui de Manuela, qui a été criminalisée. Elle a été victime d'une véritable persécution de la part du système de santé et elle est morte en prison. Tout cela parce qu'elle avait avorté, car cette grossesse était le fruit d'une infidélité. C'est ainsi que cela figurait dans le dossier tant clinique que judiciaire. Et c'est tout ce qui a conduit à la stigmatisation de Manuela. Son cas est extrêmement injuste et douloureux, et c'est pourquoi l'État salvadorien a été condamné.
Sara Garcia évoque ici le cas tragiquement emblématique de Manuela, mère de deux enfants, qui est morte à 33 ans. Elle avait été condamnée à 30 ans de prison en 2008 pour homicide aggravé, et elle est décédée en 2010 dans le service pénitentiaire de l'hôpital national de San Salvador, où elle était prise en charge pour un cancer du système lymphatique. Sa famille, qui affirme qu'elle a subi une fausse couche, a poursuivi l'État du Salvador en justice. Dans le cadre d'une audience au sein de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, Guillermo Ortiz, un gynécologue salvadorien qui vit aux États-Unis, a souligné la peur qui s'est emparée du personnel de santé salvadorien depuis 2001, année où le ministère de la Santé a exigé que les médecins signalent le moindre soupçon d'avortement. En novembre 2021, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a condamné le Salvador pour la criminalisation de Manuela et a demandé à ce pays de traiter les urgences obstétricales comme un enjeu de santé publique et non comme un crime. Un autre cas qui a profondément marqué les esprits est celui de Beatrice, cette jeune salvadorienne atteinte de lupus, à qui l'État a refusé un avortement alors que son fœtus était anencéphale. Une maladie incompatible avec la vie et qui mettait la vie de la mère en danger. Beatrice est décédée en 2017 à l'âge de 25 ans. Son cas a également été porté devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Bien que des avancées aient lieu au Salvador, des organisations liées au clergé cherchent à imposer leur morale sur les droits des femmes. Ces organisations sont des alliés de choix du gouvernement autoritaire en place, comme nous l'a expliqué Sara Garcia.
Le gouvernement actuel adopte une position très conservatrice, proche des groupes fascistes, qui sont eux-mêmes très liés à certains courants de l'Église catholique, comme l'Opus Dei. Et dans le cas de Béatrice, il y a même eu une alliance spécifique avec les personnes qui organisent la Marche pour la vie aux États-Unis.
Ces derniers mois, les défenseurs et défenseuses des droits humains, les journalistes et les organisations de la société civile ont alerté sur une intensification de la répression et de la criminalisation. Une part importante de ces personnes a d'ailleurs dû s'exiler. Pour plusieurs analystes, cette hausse de la répression s'expliquerait par les révélations publiées en mai 2025 par le journal El Faro, selon lequel un pacte aurait été conclu entre les chefs de gangs salvadoriens et Bukele. Ces gangs auraient aidé Bukele à remporter la mairie de San Salvador en 2015, puis la présidence du pays en 2019 en échange d'argent et d'avantages accordés à leurs chefs incarcérés. À cela s'ajoute l'adoption récente d'une loi sur les agents étrangers qui oblige toute personne recevant des fonds étrangers à s'enregistrer sous ce statut. Cette législation impose également une taxe de 30% sur les dons reçus par les organisations de défense des droits humains ainsi qu'aux médias indépendants. Amnesty International a exprimé sa solidarité avec les défenseurs et défenseuses des droits humains et les organisations de la société civile au Salvador. L'ONG a déclaré l'avocate Ruth Lopez, le militant écologiste Alejandro Enríquez et le leader communautaire José Ángel Pérez, prisonniers et prisonnières d'opinion, et a réclamé leur libération immédiate et sans condition.
Libertad para Ruth! Libertad para Ruth! Libertad para Ruth! Libertad para Ruth! Libertad para Ángel!
Libertad para Ángel!
Libertad para Alejandro!
Libertad para Alejandro!
Libertad para los presos y presas políticas de El Salvador.
Libertad para los presos y presas políticas de El Salvador.
Merci beaucoup Anaëlle d'avoir analysé cet autre volet de la justice, ou devrait-on dire de l'injustice salvadorienne.
C'est Millas Latinas, une émission Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Après s'être intéressé au rouage du système carcéral salvadorien, on vous propose désormais de découvrir deux collectifs anticarcéraux mexicains qui militent pour l'abolition des prisons, mais aussi pour l'amélioration des conditions de détention des prisonniers et des prisonnières.
On vous amène d'abord au Chiapas, État situé dans le sud du Mexique, berceau de l'activisme.
C'est à San Cristóbal de las Casas qu'est basé le groupe de travail No Estamos Todes, Nous ne sommes pas tous de là, un collectif anticarcéral qui a vu le jour en 2010.
No Estamos Todes prend en charge l'accompagnement de personnes détenues et organise des visites en prison de façon hebdomadaire. Sur la base du volontariat, certaines personnes dédient quelques heures toutes les semaines à rendre visite à des personnes détenues, à discuter avec elles, à jouer aux cartes et à partager un repas. Souvent, les membres du collectif leur apportent également du matériel pour fabriquer des objets artisanaux qui seront par la suite vendus à l'extérieur. La vente d'artisanat représente pour les détenus un moyen de subvenir à leurs besoins dans l'espace carcéral et d'aider financièrement leur famille à l'extérieur.
Et ces visites représentent souvent une fenêtre sur le monde. Ces visites permettent par exemple aux détenus de recréer du lien social et aux personnes solidaires qui y prennent part de connaître et de visibiliser la situation carcérale au Chiapas.
D'autant plus que les proches des détenus sont bien souvent des victimes collatérales du système carcéral. Il est parfois difficile pour la famille et les amis de rendre visite à leurs proches incarcérés en raison des frais qui sont imposés. Le coût d'une visite peut représenter plusieurs jours de travail salarié et le fait de laisser les enfants à la garde d'une autre personne constitue un frein supplémentaire. À cela s'ajoute la couverture des frais de chaque personne privée de liberté.
Le collectif No Estamos Todes organise également des actions de visibilisation des personnes incarcérées. Il s'agit alors de donner un nom, de montrer une photo, mais aussi des événements de sensibilisation à la thématique carcérale. Ses membres partent du principe que les systèmes pénitentiaires sont des espaces qui reproduisent et renforcent les oppressions propres à la société coloniale, raciste, patriarcale et capitaliste. Pour Juanpi, fondateur du collectif No Estamos Todes, le système judiciaire privilégie certaines victimes.
Toutes les personnes emprisonnées, sans distinction, sont des prisonnières et des prisonniers politiques. Parce que le système enferme les pauvres, enferme celles et ceux qui sont différents et différentes, enferme les personnes racisées et celles qui vivent en périphérie. C'est pourquoi on ne voit jamais de riches en prison.
Pour dénoncer le racisme qui gangrène le système judiciaire mexicain, le collectif No Estamos Todes a élaboré le concept de « fabrique de coupables », un concept qui fait référence aux accusations et aux condamnations injustes contre des personnes innocentes sur la base de délits fabriqués de toutes pièces. Des faux témoins sont mobilisés, des preuves sont fabriquées et les procédures légales ne sont pas respectées. Cette fabrique de coupables vise les personnes vulnérables sur le plan social, politique et économique. C'est également une méthode utilisée pour criminaliser celles et ceux qui dérangent le système en raison de leur activisme. Dans l'état du Chiapas, cette fabrique de coupables a ses cibles.
Cette fabrique de coupables a donc ses victimes désignées, du moins dans l'état du Chiapas. Notre expérience montre que ce sont les peuples autochtones, ce sont des personnes appauvries, ce sont des personnes qui, souvent, ne parlent pas l'espagnol. Cette langue, l'espagnol, c'est celle des personnes de pouvoir, c'est la langue de celles et ceux qui font les lois. Et si vous ne comprenez pas leur langue, il vous sera très difficile de vous défendre.
La lutte acharnée menée par le collectif No Estamos Todes pour permettre la libération des prisonniers et prisonnières politiques du Chiapas a permis de belles victoires. Le 22 novembre dernier, 5 défenseurs du territoire celtal ont été libérés. Incarcérés pendant 3 ans et demi pour un délit fabriqué, ils étaient accusés du meurtre d'un policier municipal. Un tribunal a ordonné leur libération immédiate après avoir confirmé que les preuves à leur encontre étaient contradictoires et avaient été conçues de toutes pièces par les autorités locales, ce que diverses organisations de défense des droits humains et l'ONU avaient signalé depuis 2024.
Nous conclurons donc cette chronique avec les mots de Juanpi, qui nous invite à chercher une autre manière de rendre justice, manière qui privilégie la réparation et qui s'inspire de la justice autonome zapatiste.
C'est Millas Latinas, une émission Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Et on continue notre traversée radiophonique au Mexique avec le collectif féministe anticarcéral Hermanas en la Sombra, les sœurs dans l'ombre. Collectif qui cherche à redonner leur dignité aux femmes incarcérées à travers la publication d'écrits et la diffusion d'autres productions artistiques.
Et j'ai eu l'honneur, lorsque j'étais au Chiapas l'été dernier, de rencontrer Aida Hernández, qui m'a présenté le collectif dont elle est membre.
Bueno, mi nombre es Aida Hernández Castillo. Soy antropóloga y activista feminista y soy parte de una colectiva que se llama la colectiva editorial Hermanas en la Sombra.
Je m'appelle Aida Hernández Castillo. Je suis anthropologue et militante féministe et je fais partie d'un collectif qui s'appelle Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra, fondé il y a 17 ans dans une prison pour femmes de l'État mexicain de Morelos. Ce projet a débuté comme un projet d'écriture créative, avant de devenir un projet éditorial à la demande des femmes incarcérées. Il s'agit de la première maison d'édition pénitentiaire au Mexique où les femmes incarcérées écrivent, éditent, conçoivent et publient leurs propres livres.
Aida Hernández travaille avec des femmes indigènes incarcérées dans une prison de haute sécurité, considérée comme le plus grand centre pénitentiaire pour femmes en Amérique latine et située dans l'état de Morelos, dans le centre du Mexique.
Bien que les délits soient divers, beaucoup de femmes y sont incarcérées pour des crimes contre la santé. Au Mexique, c'est ainsi que l'on appelle des délits liés à la drogue. Beaucoup d'entre elles ne parlent pas bien l'espagnol. D'autres n'ont pas eu droit à un avocat commis d'office. Et certaines ne savent même pas de quoi elles sont accusées. Des personnes situées au plus bas de la pyramide du trafic de drogue se retrouvent incarcérées. Des femmes pauvres, indigènes et paysannes.
Surnommées le cimetière des vivantes, l'unique prison pour femmes au Mexique enregistre une vague de suicides sans précédent. D'après les chiffres de la Commission nationale des droits humains du Mexique, 11 suicides sont survenus en 9 mois, entre mars et décembre 2023. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, le manque d'accès aux soins médicaux, l'usage de la torture pour punir les détenus et le transfert de détenus depuis des localités éloignées qui empêchent les visites régulières des membres de leur famille, entre autres.
Face à ces multiples injustices, Hermanas en la Sombra défend les droits des femmes et lutte pour l'abolition du système pénal et de la prison, deux combats qui a priori paraissent antagonistes. Les membres du collectif ont développé une critique de la justice étatique punitiviste, comme nous explique Aida Hernández.
Pienso para empezar que hay un racismo judicial, que las cárceles tienen color.
Pour commencer, je pense qu'il existe un racisme judiciaire, que les prisons ont une couleur et qu'elles sont peuplées de personnes pauvres et racisées, dont beaucoup se définissent elles-mêmes comme indigènes et d'autres non, mais sont néanmoins considérées comme indigènes par un système raciste. Ce sont celles et ceux qui ne peuvent pas payer le prix de la justice. Et de manière générale, et pas seulement au Mexique, je pense que les prisons sont un vestige médiéval. Il est inconcevable que nous ayons tant progressé dans les sciences, en médecine, que nous soyons allés sur Mars et que pour résoudre les conflits sociaux, nous continuions à recourir à l'isolement et à la punition, qui sont des solutions médiévales. J'estime que les prisons ont largement démontré leur échec. Et dans le cas du Mexique, c'est d'autant plus vrai que les personnes pauvres et racisées qu'on met en prison ne sont pas celles qui ont plongé le pays dans ce bain de sang. À l'inverse, lorsque vous mettez une femme indigène et paysanne en prison et que vous laissez ses enfants seuls, enfants dont la plupart du temps les pères ne se sentent pas responsables, ceux-ci se retrouvent dans une situation de vulnérabilité et peuvent facilement être recrutés par les crimes organisés.
Le positionnement du collectif s'inscrit dans le mouvement féministe abolitionniste qui prône l'abolition du système carcéral comme la meilleure réponse à la violence étatique et genrée. Alors que nombre de féministes militent pour la criminalisation des violences genrées, l'abolitionnisme carcéral et le féminisme ne vont pas forcément de pair.
Et il importe donc de faire une distinction entre le féminisme abolitionniste et le féminisme carcéral. Les féministes carcérales s'appuient sur un pouvoir punitif accru de l'État dans la lutte contre les violences de genre. Les partisans de ce courant considèrent que l'incarcération des agresseurs et l'imposition de peines plus sévères peut avoir un effet dissuasif. La menace de la punition permettrait de prévenir les violences faites aux femmes.
À l'opposé, les féministes abolitionnistes critiquent le recours à la punition comme forme de dissuasion. Elles dénoncent également l'impact différentiel de la prison sur l'entourage en fonction du genre. Les proches des prisonniers sont pour l'essentiel des femmes. Ce sont elles qui soutiennent matériellement, financièrement et émotionnellement les hommes incarcérés. En effet, dans notre société, le care, le soin, est toujours davantage attendu des femmes que des hommes.
C'est pourquoi les abolitionnistes privilégient la justice réparatrice, qui met la focale sur le besoin des victimes et œuvre à restaurer le lien social. Obtenir des réponses à ces questions sur les faits, voir son préjudice être reconnu, obtenir réparation sont les arguments mobilisés par les abolitionnistes pour défendre une justice restauratrice basée sur le dialogue entre l'agresseur et la victime. Cette forme de justice permet à l'agresseur de comprendre quel mal il a causé. Elle a aussi pour finalité de réparer la victime et de réinsérer l'auteur du crime dans la société pour qu'il ne récidive pas. Ce type de justice s'inspire du fonctionnement des justices indigènes.
Aida Hernandez appelle en ce sens à s'inspirer des systèmes de justice autochtones pour construire une justice féministe.
Tenemos que tener un poco más de humildad para ver en cómo en otros espacios con sus defectos se están logrando otras formas de justicia restaurativa.
Nous devons faire preuve d'un peu plus d'humilité pour voir comment dans d'autres espaces et malgré leurs défauts, d'autres formes de justice réparatrice sont mises en place. Par exemple, le concept de rééducation est utilisé dans de nombreuses communautés autochtones, où la punition, soit la manière dont la violence est sanctionnée, consiste souvent en des travaux communautaires, mais aussi en une rééducation, dans la mesure où la personne peut aller auprès des anciens et renforcer les valeurs d'harmonie communautaire.
Bien que le chemin pour nous faire justice paraisse long, les initiatives féministes communautaires, comme celles portées par Hermanas en la Sombra, permettent de semer des graines de réflexion sur notre modèle de justice.
Et nous voici à la fin de cet épisode consacré aux prisons et au populisme pénal au Salvador et en Amérique latine. On espère que cette émission vous a plu. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet, je ne peux que vous recommander de regarder le documentaire de Stelina Escher, Fly So Far, qui parle de l'incarcération des femmes au Salvador, un pays où l'avortement est illégal et criminalise les fausses couches, comme vous le savez désormais.
Et bien sûr, profitez de cette période de Noël pour écouter et réécouter les épisodes de Semillas Latinas, l'occasion parfaite pour adopter des résolutions écoféministes pour l'année prochaine.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram @SemillasLatinasRadio pour des illustrations fraîchement concoctées par l'équipe et des recommandations culturelles inédites. Et on remercie Alice et Ludovic pour leur traduction et leur aide dans cet épisode.
Excellente soirée sur Radio Campus Paris.